était 90.3 FM. On est aujourd'hui le 1er février, et oui, c'est la première édition du lendemain de la veille. Et comme d'habitude, pour commencer la semaine, la journée et le mois, nous avons avec nous Ramon Vitesse avec sa chronique BD. Bon matin!
Salut Tamara, ça va très bien aussi. Alors, ben voilà, pour commencer cette année, je trouve intéressant de jeter un petit regard dans le rétroviseur pour certaines bandes dessinées qui ont été marquantes, certaines bandes dessinées qu'on est peut-être passé trop vite ou qu'on était distrait et qu'on a manqué. Alors voilà, je les ai regroupées en quatre catégories différentes. D'une part, renouvellement femmes, qui sont toutes des autrices. Il y a une autre catégorie que j'ai préparée qui s'appelle des monstres, des monstruosités. Et j'ai aussi une série documents graphiques, c'est-à-dire vraiment des documentaires ou des reportages, des biographies, des trucs en réalité donc qui ont une valeur ajoutée peut-être avec cet aspect documentation. Et la quatrième catégorie, c'est romans graphiques stupéfiants, remarquables d'audace. Alors voilà, je propose qu'on commence tranquillement. On en a pour quelques chroniques certainement, et cette année, de toute façon, on se propose de revenir avec des interviews d'auteurs ou d'autrices de bandes dessinées à la demande générale. Et cette année, petite nouveauté, on aura certainement des auteurs ou autrices européennes. Alors voilà. Pour commencer, donc, je propose d'aller voir du côté des femmes. Définitivement, s'il y a quelques années, on avait souffert d'un manque de représentativité féminine lors du fameux festival d'Angoulême, ça avait été décrié, il y avait plusieurs autrices et auteurs qui avaient signé un genre de manifeste pour réclamer une forme de parité. On peut dire que, en tout cas, à tout le moins, dans la trentaine de bandes dessinées que je retiens de cette année, il y en a environ la moitié qui sont effectivement le fait de femmes. Commençons sans plus tarder avec un duo fraternel et sororité. Il s'agit de Kiem Terre Maternelle. C'est un frère et une sœur qui co-signent ce livre. Jibril au dessin, qui est très connu pour son travail de dessinateur de super-héros chez Marvel. Ici, avec sa sœur Yasmine, Fan Morissette, Fan, ça s'écrit P-H-A-N, et Morissette en bon québécois. Alors voilà, c'est publié chez Glénat. Ensemble, ce qu'ils signent finalement, c'est leur racine vietnamienne à partir de leur grand-mère, leur mère, et la troisième génération féminine de terre maternelle, c'est bien sûr Yasmine elle-même, l'autrice, puisque c'est une toute nouvelle génération qui est issue de l'immigration, oui, mais qui part sur des bases peut-être plus solides sur le plan familial ici, alors que sa mère est arrivée ici toute seule, sans même d'adulte, a été adoptée temporairement jusqu'à ce que sa mère puisse se permettre le voyage. Alors, c'est une véritable odyssée. C'est en noir et blanc pur. C'est des pages qui peuvent évoquer les comic books de super-héros, mais avec une sensibilité et avec une espèce de prisme dans le dessin qui donne un dynamisme remarquable. Alors voilà, c'est un livre qui se range auprès des plus grands auteurs, autrices européennes, certainement. Kiem Terre Maternelle par Jibril et Yasmine Fan Morissette, publié chez Glénat, ici au Québec. Un autre bouquin, celui-ci a rapport avec notre lien avec la vie. On en a parlé il y a plusieurs mois, ça s'intitule « Comment et pourquoi je suis devenu vegan ». l'autrice Ève-Marie Gingras publie ici chez Éco-Société. C'est le deuxième ou troisième roman graphique publié chez cet éditeur définitivement politisé de gauche, ici au Québec. Comment et pourquoi je suis devenue végane, d'Ève-Marie Gingras, est remarquable en particulier pour un élément. C'est la quête, c'est la recherche, c'est la compréhension de pourquoi manger des animaux et pourquoi, évidemment, et comment ne pas en manger si on découvre que c'est non seulement pas nécessaire, mais que ça peut être préjudiciable, notamment pour la planète ou encore pour sa propre santé. Alors voilà, ce livre-là est définitivement solide, étayé et il ne manque pas d'humour avec des dessins très simples. Ève-Marie Gingras a ressorti donc une passion de jeunesse, ses crayons et ses lavis d'encre de Chine pour dessiner comment et pourquoi je suis devenu végan. Un autre bouquin, celui-ci, c'était des fanzines dont on a parlé. Une série de trois petits fanzines dont l'autrice, j'en ignore le nom, il n'est absolument pas signé. C'est des autoproductions, bien entendu. Ça a été publié ici à Montréal et j'avais trouvé ça à la librairie anarchiste sur Saint-Laurent, purement gratuitement, oui, oui. Alors, ça s'intitule « Armless Woman ». Qui était un petit fanzine avec des femmes réelles qui existent dans la vraie vie, qui n'ont pas de bras et qui vivent et qui parviennent à être, comment dire, absolument efficaces dans leur vie de tous les jours, peut-être même, je dirais, plus que la moyenne des gens. Un autre livre, un autre fanzine, pardon, de cette personne-là, dont on, anonyme, c'est Built Woman, des femmes bâties, si on peut traduire comme ça, donc des femmes musclées. Oui, alors définitivement, on n'est pas dans les femmes les plus courantes. Et pour terminer, l'autrice proposait Ladies of the Podium, donc des femmes championnes d'une certaine façon. Alors voilà, c'était toute une petite série de fanzines vraiment cool, vraiment, pour ma part, que je considérerais comme endémique. Un petit bouquin ici du Québec en noir et blanc qui s'intitule « Copines et copines ». C'est quatre autrices qui ont réuni leurs talents pour raconter cette histoire de deux femmes, une jeune fille et une dame d'âge mûr qui s'acoquine d'une certaine façon avec le père de la jeune fille, donc va faire un bout de chemin avec lui sur le plan amoureux. L'histoire fait abstraction donc de l'histoire amoureuse des adultes pour s'attacher à une seule et même histoire, celle des deux copines. Celle qui, au début, était réfractaire au nouvel amour de son père, devient littéralement les meilleures amies du monde. C'est publié aux éditions de l'Homme. Les autrices sont Nunes, Perron, Verge et Dubois. La particularité, c'est que c'est en noir et blanc et l'histoire inclut la mort d'une des copines. L'adulte est atteinte d'un cancer duquel elle va trépasser au fil du temps. Et Copine va donc revivre aussi de cette histoire d'amitié très forte. Un dernier bouquin de notre série de femmes de l'an dernier, Un monde terrible et beau. C'est publié chez Gallimard par une autrice américaine qui est ici en traduction, Eleanor Davis. Un livre que je recommande à tout prix, puisqu'il est question de militantes, il est question de révolution, il est question de transformer le monde dès sa propre implication, dès sa propre conscience d'une certaine façon. Il s'agit d'une jeune femme qui est préposée aux bénéficiaires ou quelque chose d'approchant avec des personnes âgées et qui attend un bébé avec son copain qui fait de l'autoconstruction. Et se mêlent à ça différents sujets, souvent extrêmement sensibles et originaux. Comme par exemple, une espèce de triangle amoureux, puisque il y a la fille en question, qui est le personnage principal, la préposée bénéficiaire, a aussi une copine duquel, en fait, elle vit une espèce d'idylle non avouée. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi, cette sensibilité-là, que je dirais, puisque cette bande dessinée-là, son dénominateur commun serait assurément des sensibilités exacerbées, des sensibilités un peu comme des antennes. Alors, un monde terrible et beau, en noir et blanc, définitivement issu de l'underground américain, Eleanor Davis, publié en français, donc, chez Gallimard. Tant qu'à parler d'histoire d'amour, peut-être tiens un tout dernier titre en bonus, « Ce qui nous sépare ». Ça fait drôle comme titre pour un livre d'amour. L'autrice se nomme Hélène Aldeguer, A-L-D-E-G-U-E-R, était publié chez Futuropolis. C'est un livre publié avec quelques monochromes répétitifs. L'histoire, en réalité, c'est l'histoire d'une Française qui est amoureuse d'un Arabe et qui finit par s'apercevoir que, oui, il y a certaines choses qui les séparent. Définitivement, par exemple, la question du voyage. Alors que les amis de cette Française-là parlent tout du voyage comme d'un loisir, son copain arabe, lui, c'est définitivement pas Jojo que le voyage. L'immigration a été extrêmement féroce, a été dure, et il vient perdre son cousin qui a coulé au large dans un bateau pour fuir le pays qui est en ébullition politique. Alors voilà, un très beau livre, un livre encore là extrêmement sensible d'Hélène Aldeguer chez Futuropolis, que ce livre « Ce qui nous sépare ». Alors voilà déjà une première demi-douzaine donc de ces livres de femmes. On en a encore une autre demi-douzaine à vous parler, des livres définitivement remarquables dont on a trop peu entendu parler dans les médias traditionnels, mais que CKUT, ici, au lendemain de la veille, se fait fort de sonner les cloches pour pouvoir retourner donc faire nos lectures, faire des propositions à notre bibliothèque publique tout près de notre cœur. Alors voilà, on se fait une petite musique. Ici, ça va être un groupe qui s'appelle Fleur. C'est un duo masculin-féminin. L'album s'intitule Saratoga. C'est publié chez l'étiquette du Prince. Et la pièce, puisqu'on parlait beaucoup d'émotions, j'ai choisi une pièce qui s'intitule Grand Remous. Alors voilà, c'est sur les ondes du 90.3 FM, CKUT. Merci beaucoup Tamara et au plaisir à vous tous et toutes.
Aujourd'hui, on va aborder les données d'efficacité et de sécurité des vaccins, ainsi que les éléments associés à leur préparation et à leur distribution. Pour répondre à nos questions, je reçois Rachel Rouleau, qui est chef adjointe et pharmacienne au CIUS de la Capitale-Nationale, un des établissements qui a été l'un des premiers responsables de la distribution des vaccins. Rachel est bien connue du milieu pharmaceutique. Elle a notamment mérité le prix Louis Hébert de l'Ordre des pharmaciens du Québec en 2020. Bonjour Rachel.
Bonjour Nathalie. Merci. Bonne année à toi.
Bonne année Rachel. Écoute, lançons-nous là, déjà. En quoi es-tu impliquée dans la campagne de vaccination dans ton établissement de santé?
En fait, je suis chef adjointe, mais ce n'est pas moi qui m'occupe des services pharmaceutiques. Mon implication est un peu plus limitée. J'ai donc été impliquée dans la campagne de vaccination en lien avec l'organisation qu'on devait en faire. Et c'est sûr que vous comprenez qu'avec le vaccin Pfizer-BioNTech qui nous arrive congelé à des températures extrêmes, je dirais, là, de moins 60 à moins 80 quand même, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, qui doit être décongelé, qui doit être dilué, dont la stabilité est courte, donc qui doit être étiqueté. Fait que les manipulations entourant le circuit de ce produit immunisant-là est quand même complexe. Donc, je suis impliquée dans la campagne pour soutenir l'équipe des services pharmaceutiques. Puis en fait, ce qu'on a fait dans la région de la Capitale-Nationale, c'est qu'on s'est mis sur pied une équipe d'étudiants universitaires qui vont nous soutenir dans la campagne de vaccination, donc qui vont nous aider à faire toutes ces manipulations-là de congélation, décongélation, de dilution, etc. On a donc une équipe de 40 étudiants là, qui nous soutiennent et on a même une équipe d'étudiants de réserve pour si jamais nos capacités vaccinales augmentent, pour répondre évidemment à la demande et ne pas être le chaînon manquant finalement là, dans cette chaîne de travail. Puis l'autre raison, en décembre dernier, finalement, j'ai supervisé différentes activités d'instruction, comme je le fais régulièrement, dont une sur les différents vaccins qui s'en viennent dans le traitement de la COVID-19. Donc, j'ai eu la chance de lire l'ensemble des études et différents autres documents, mais je dois aussi vous avouer que l'information évolue rapidement. À tous les jours, il y a des publications sur la COVID-19 et même sur les vaccins au moment où on se parle. Donc, ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, là, l'entretien qu'on va avoir est vrai aujourd'hui, le 8 janvier. Au mois de février, par contre, il va peut-être y avoir des nouvelles données puis certains des éléments qu'on mentionne qui auront été modulés.
Ouais, le but du balado étant de soutenir nos pharmaciens maintenant. Là, alors, merci Rachel d'avoir accepté là, effectivement dans la grandeur du sujet et surtout la rapidité à laquelle il évolue. Comment ça se passe, les premières vaccinations dans ton établissement de santé?
Dans mon établissement, les premières vaccinations vont très bien. D'ailleurs, on a chez nous là, la première vaccinée au Québec, une célébrité maintenant. et dans notre région, on a déjà administré là, quelques milliers de doses quand même. Je ne pense pas qu'on peut appeler ça un départ canon. Là, si on avait pu administrer 4 à 5 000 doses par jour, on a déjà quelques semaines de recul. On aurait déjà quelques dizaines de milliers de patients, mais ce n'est pas le cas. On est encore dans les milliers de patients dans la Capitale-Nationale qui sont vaccinés.
Train va loin. Avançons.
Oui, tout à fait. Par contre, on est en train de roder le système. Puis comme vous le voyez, c'est juste notre équipe d'étudiants dilueurs. Écoute, on va pouvoir vacciner de façon vraiment massive dès que les vaccins seront disponibles.
Écoute, Rachel, au début de la pandémie, là, on disait que le développement d'un vaccin prenait de 10 à 20 ans. Or, on sait que les vaccins actuels qui sont disponibles sont distribués après un processus qui a duré moins d'un an. Est-ce que c'est préoccupant? Est-ce qu'on devrait être préoccupé par la vitesse à laquelle ça a été commercialisé?
La réponse finalement à cette question-là, à mon avis, c'est non. Je pense qu'on ne devrait pas être préoccupé. Puis je vous donne différents arguments là, pour étoffer ça. Le premier, c'est que prenons le vaccin pour la grippe. Le vaccin pour la grippe qui ressemble un petit peu dans le fond à celui d'AstraZeneca, là, pas tout à fait, mais c'est quand même un vaccin habituel, là, inactivé ou comme on a l'habitude de le voir. Bien, le vaccin pour la grippe, il est renouvelé à chaque année. T'sais, donc, à chaque année, on en produit un nouveau avec les types d'influenza qui ont circulé le plus la saison précédente, donc qui peuvent être les plus à risque là, de causer les infections virales durant l'année en cours. Et là, les gens vont probablement nous demander, « Ouais, mais celui à ARN, lui, il n'existait pas. Lui, il est vraiment nouveau. » c'est vrai qu'il est vraiment nouveau. En fait, c'est la première fois qu'on l'utilise dans des campagnes de vaccination, puis pour vacciner pour de vraies pathologies, pour de vraies maladies. Ceci dit, la recherche sur les vaccins à ARN date vraiment pas d'hier. Ça fait des années que des équipes de chercheurs dans le monde entier qui travaillent sur le sujet, et tout ce qu'ils ont fait cette année, puis il y a même eu des études de publier. Hein. Si vous cherchez un petit peu, là, il y a même eu déjà des études, entre autres, la compagnie Moderna a déjà publié des études sur des vaccins à ARN, sauf qu'ils ne sont pas encore commercialisés. les compagnies qui commercialisent des vaccins à ARN, ce qu'ils ont fait dans la dernière année, c'est séquencer l'ARN, le fabriquer d'une façon particulière, le mélanger avec des protéines de lipides, tout simplement, pour faire le vaccin. Donc, c'est ça le petit bout là, qui a été fait cette année, fait que c'est pas monstrueux. Hein, ils avaient déjà développé toute la technologie pour fabriquer de façon massive ce vaccin-là. Et évidemment, ils ont aussi réalisé leurs études cliniques. Dans le contexte où on est présentement, ils ont fait ça, j'étais pour dire, de façon très intelligente. C'est-à-dire qu'ils ont parti l'étude de phase 1 et ils ont regardé les résultats intérimaires, tout se déroulait bien. Fait que plutôt que de fermer l'étude de phase 1, de publier, d'attendre, là, OK, il y a de l'éditeur, puis après ça, de passer à la phase 2, bien, ils ont fait ça en continu. Donc, de façon intérimaire, ça va bien. Fait qu'on poursuit la phase 2. Et même chose pour la phase 2, ça va bien, on poursuit la phase 3. Donc, il y a des phases 3 qui ont été débutées au mois de juillet et qu'on a eu des résultats intérimaires là, en décembre. Et c'est d'ailleurs sur ces résultats-là qu'est basée la commercialisation du vaccin Pfizer-BioNTech. L'autre élément intéressant qui peut expliquer en partie là, la rapidité, bien, c'est la prévalence de la pathologie qu'on cherche à évaluer dans l'étude en question. Et c'est sûr que dans le cas de la COVID-19, en 2020, trouver des patients atteints de COVID, c'est assez facile. La prévalence est quand même élevée. Donc, rapidement, dans le fond, dans les études cliniques, les épisodes se sont développés, ce qui leur a permis de réaliser ou d'avoir des résultats significatifs quand même beaucoup plus rapidement. Donc, il y a deux principaux types de vaccins contre la COVID-19. Le premier, c'est des vaccins entiers, des virus entiers qui sont atténués ou inactivés. Donc, ce qu'on a l'habitude de connaître, là. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le vaccin d'Oxford-Astra. Donc, c'est vraiment un virus entier qui a été atténué ou inactivé. En fait, c'est un virus de chimpanzé qu'ils ont utilisé. Puis, ils ont intégré dans le virus atténué un ARN qui va coder une partie là, du coronavirus. Donc, c'est ce qu'on appelle le leurre. Hein? Parce que, dans le fond, le principe de la vaccination, c'est de tromper notre système immunitaire, de lui faire croire qu'il y a une infection pour qu'il développe des anticorps pour nous protéger le jour où il y aura une vraie infection, hein, pour la combattre immédiatement, évidemment, qu'on n'ait pas cette infection-là. Donc, ça, c'est la façon traditionnelle. L'autre type de vaccin, c'est des vaccins à virus fragmenté. C'est vraiment juste un bout de virus. Et dans ce cas-là, le bout de virus, bien, c'est de l'ARN. Et c'est l'ARN qui sert de leurre, qui sert à stimuler notre organisme pour qu'il fabrique le leurre. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna.
Mais le vaccin de AstraZeneca, il n'est pas encore au Québec en ce moment.
Non, en effet. Le Zeneca n'est pas commercialisé au Québec. Mais là, on peut parler en termes de mondial. Mais il est déjà approuvé, par contre, au UK. Et éventuellement, probablement qu'on en aura quelques exemplaires, finalement, de disponibles au niveau national.
D'accord.
Donc, pour parler des études, il y a beaucoup d'études là, avec les vaccins contre le coronavirus. En fait, pour vous dire des chiffres précis, là, il y a 41 vaccins qui sont présentement en études de phase 1. Il y en a 16 qui sont en phase 2, il y en a 16 en phase 3. Il y en a 5 qui sont officiellement commercialisés, même probablement un petit peu plus à l'heure où on se parle. Les chiffres changent tellement vite, là. Dont celui de Pfizer, BioNTech, celui de Moderna, celui de AstraZeneca, le Sinopharm, qui est un vaccin chinois. Je pense que le Sputnik aussi a eu une approbation. Donc, il y en a de plus en plus qui ont des approbations complètes ou partielles.
Un dans la région de Québec qui est en étude également.
Oui, tout à fait, celui de Medicago. Il est en phase d'étude. Donc, vous comprenez là, qu'avec tous les chiffres que je viens de vous dire là, on est à peu près à 80 vaccins différents. Donc, des études sur le vaccin, il y en a. Là. Il en sort beaucoup de ce temps-là. Si tu me permets, je pense qu'on va se concentrer sur celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna.
Je suis d'accord.
Donc, celui de Pfizer-BioNTech, qui est le premier, dans le fond, qu'on a eu au Canada. Je vous ai mentionné quelques éléments là-dessus, mais son petit nom, son nom de commerce, là, si jamais vous aimez ça, retenir ça, là, c'est le BNT-162B2. Ce vaccin-là, comme je vous le mentionnais un peu précédemment, a subi des études de phase 1, de phase 2, de phase 3 continues, hein, donc dans un processus continu. Et la phase 3 a débuté de façon précise le 27 juillet 2020. Donc, la phase 1, évidemment, comme la majorité de nos phases 1, c'est pour identifier le vaccin, puis choisir les doses, détailler un petit peu plus l'immunogénicité, la sécurité du vaccin, etc. Alors que quand on est rendu en phase 2, en phase 3, bien là, évidemment, on étend la cohorte, puis on évalue l'efficacité de notre vaccin en tant que tel. Alors que dans les premières phases, c'est plus pour trouver nos doses, puis la sécurité de façon macro, si on veut, là, du vaccin qu'on évalue. Dans le cas de la phase 3, trois groupes ont été faits, donc des groupes de 12 à 15 ans, des groupes de 16 à 55 ans, des groupes de plus de 55 ans, et c'était une étude multicentrique, donc il y avait 7 pays différents qui ont contribué à l'étude. Il y avait 155 sites dans les 7 pays, et c'est une étude qui est randomisée, contrôlée, évidemment, en triple aveugle. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de façons de biaiser les résultats au niveau du design de l'étude en tant que telle. Puis, il n'y a pas personne qui a levé la main là, pour dire ça ne s'est pas bien passé, puis les résultats rapportés ne reflètent pas ce qu'on a vu dans notre site ou dans notre pays. Puis pourtant, il y en avait 155 là, qui auraient pu le faire. Là.
Donc, grosse étude, bien construite.
Exactement, comme l'industrie a l'habitude de le faire là, avec ses nouveaux produits. Puis, ils ont randomisé dans cette étude-là, en date de décembre dernier, à peu près 44 000 sujets. Donc, c'est déjà 44 000 personnes qui ont été, en tout cas, la moitié était dans le groupe exposé, la moitié dans le groupe placebo, donc qui ont été exposés au vaccin. Mais là, vous comprenez qu'il y en a 80 autres vaccins. Là. Fait que, tu sais, des gens qui ont été exposés au vaccin, il y en a beaucoup au moment où on se parle, au niveau mondial. Les objectifs primaires et secondaires, si on veut, dans cette étude-là, bien évidemment, l'objectif primaire, c'était la prévention d'une primo-infection. Donc, ce qu'on voulait, c'est éliminer complètement les infections virales dues au SARS-CoV-2. Le paramètre d'efficacité secondaire était la prévention d'une primo-infection ou d'une réinfection. Dans le fond, on ajoutait les réinfections dans l'objectif secondaire. Les résultats intérimaires ont donné une efficacité de 95 %, donc extrêmement significatif et en clinique et au niveau statistique. Le P était à 0.0001. 28 jours après la première dose du vaccin, donc 7 jours après la deuxième, parce que dans le cas du protocole, la première dose est au jour 1 et la deuxième au jour 21. Si on regarde comment on calcule ça, 95 % d'efficacité, là, bon, on avait 44 000 sujets à peu près. Dans le groupe placebo, il y a eu 168 cas de COVID et dans le groupe exposé, il n'y a eu que 8 cas de COVID. Fait que si on rapporte ça en pourcentage, bien, ça nous fait 95 % d'efficacité pour prévenir des primo-infections au coronavirus, au SARS-CoV-2. On a vu aussi qu'il y a eu 9 infections sévères là, qui ont nécessité des soins intensifs dans le groupe placebo et une seule dans le groupe exposé. Ceci dit, là-dessus, évidemment, je ne pense pas qu'on puisse conclure que ça diminue les infections sévères, même s'il y en a moins dans le nombre, mais il y a moins de gens qui ont été tout simplement infectés. Ça fait en sorte que, évidemment, il va y avoir moins d'infections sévères, pas parce que ça diminue la sévérité une fois qu'on l'a, si on n'est pas chanceux puis qu'on l'attrape, mais tout simplement parce que de façon massive, ça diminue le nombre d'infections.
T'sais, 95 % c'est quand même un résultat impressionnant là, en termes d'efficacité. Là. Les auteurs doivent être contents.
Exactement.
Je suppose que le vaccin de Moderna, ça doit être un processus qui ressemble.
Oui, tout à fait. L'étude clinique est similaire. Puis d'ailleurs, les résultats de l'étude COVE sont similaires aussi pour le vaccin Moderna. Donc, on arrive à des taux d'efficacité extrêmement intéressants avec ce type de vaccin-là. Et il faut se rappeler que tout ce qu'on fait, c'est injecter de l'ARN qui a été fabriqué là, en laboratoire, donc qui n'est même pas extrait, là, et qu'on mélange cet ARN-là avec un petit peu de lipides. Le vaccin ARN, c'est que ça. Et on injecte ça en intramusculaire. Et il y a quelques ARN qui réussissent à aller dans une cellule et à produire notre leurre, qui est dans tous les cas, là, dans presque tous les vaccins, la protéine spike. Donc, ils développent un petit peu de protéine spike. Je vous dirais que la moitié de l'ARN est systématiquement détruite ou n'atteint pas ses cibles, mais si il y en a quelques-uns, on développe quelques protéines spike. Et là, notre organisme reconnaît cette protéine-là et développe des anticorps pour éventuellement prévenir une infection à SARS-CoV-2.
Mais dis-moi, peut-on parler un peu des effets indésirables qui ont été rapportés dans les études ou même dans la post-commercialisation? Là? Est-ce que c'est sécuritaire?
Oui, c'est une excellente question. En fait, les effets indésirables sont très similaires à ce qu'on observe avec les autres types de vaccins. Prenons l'étude de COVE, donc l'étude avec le vaccin de Moderna. Évidemment, les effets secondaires là, auxquels on soustrait les effets du placebo, parce que souvent, c'est des effets très généraux. La fatigue, 9,7 % des maux de tête, 4,5 % myalgie, 8,9 arthralgie, douleur au site d'injection. Évidemment, c'est normal. On a quand même une injection intramusculaire, donc 4,1 % un peu d'érythrème, de la rougeur. Donc, des effets, somme toute, qui sont habituellement inférieurs à 10 % et qui sont mineurs. Vous avez peut-être vu là, ceux qui sont plus curieux là, parmi vous, des articles qui ont passé qui donnaient comme réaction adverse une paralysie faciale avec le vaccin de Moderna. Tu sais, j'avais vu ça comme titre, je me suis dit, oh, OK, je vais aller voir ça. Et finalement, la paralysie, parce qu'il y a eu juste un cas de rapporté, la paralysie faciale qui est arrivée s'est résolue après quelques semaines et surtout, elle était arrivée dans le groupe placebo. Je pense que pour le moment, c'est très rassurant. Puis les vaccins semblent évidemment sécuritaires. Puis on est au niveau mondial rendu à des centaines de milliers de patients qui ont reçu ce vaccin.
Parce que si je ne m'abuse, on a mis en place aussi une surveillance post-commercialisation.
Tout à fait. Puis il y a sûrement des études de phase 4 en cours. Puis tous les organismes de réglementation doivent faire ça. Donc Santé Canada, la FDI ont mis en place ce genre de processus-là. Puis on doit déclarer les réactions adverses graves à ces virus-là.
Donc, vaccin bien toléré, on est content. Est-ce qu'il y a des contre-indications, dis-moi Rachel, à l'utilisation de ces vaccins?
Une bonne question. Bien, dans les études, il n'y en avait pas beaucoup hein, de contre-indications ou de critères d'exclusion en tant que tel, ce qui n'est pas nécessairement des contre-indications. Là. Mais dans les études en tant que tel, ils ont exclu, si on veut, les jeunes enfants. Ils ont exclu aussi les femmes enceintes. Ces clientèles-là ne sont pas énormément étudiés au moment où on se parle. Ils ont aussi exclu les patients immunosupprimés qui prennent soit par différentes pathologies, soit par différents médicaments, parce qu'évidemment, ils voulaient valider l'efficacité dans la population en général et pas dans des cas spécifiques ou particuliers. Puis on sait que ces patients-là vont probablement avoir une immunité, là, comme on les vaccine, ces patients-là, avec le vaccin contre la grippe, finalement. Donc, ces patients-là développent une certaine immunité, mais peut-être que la réponse est moindre en lien avec leur immunosuppression, évidemment, qui diminue là, leur capacité à réagir là, ou à développer des anticorps. Donc, ils ont exclu ces patients-là.
Puis qu'en est-il de notre campagne de vaccination actuelle? Est-ce qu'on exclut les femmes enceintes, les enfants, les patients immunosupprimés?
Bien, c'est sûr que les enfants et les femmes enceintes ne font pas partie des clientèles prioritaires. Hein. On les a mis en bout de course, finalement, là, dans notre campagne de vaccination. Plus fait qu'on verra, quand on sera rendu là, si on a eu des données de sécurité et d'efficacité pour ces groupes-là. Je ne suis pas très inquiète, pas particulièrement pour les enfants. Là. Je pense qu'on en aura. Pour ce qui est des patients immunosupprimés, bien, c'est plus une mise en garde. Hein. La vaccination n'est pas contre-indiquée en tant que telle, mais la réponse immunitaire à la vaccination pourrait varier là, chez ces patients-là. Mais ils vont quand même avoir une certaine protection.
Fait que donc, ça va être discuté au cas par cas en fonction du degré d'immunosuppression du patient.
Exactement. Et c'est sûr que si on a des allergies sévères ou aux composantes du vaccin, bien, ça pourrait être une contre-indication à l'utilisation du vaccin.
Je me demandais également, qu'est-ce qu'on fait avec nos patients anticoagulés? Est-ce qu'on doit être plus prudent?
Oui, tout à fait. Comme il s'agit d'une injection intramusculaire, bien, c'est possible que ça provoque une hémorragie locale. Donc, la conduite est la même là, que pour toute injection intramusculaire chez ce genre de patients-là. On ne s'empêche pas nécessairement de vacciner ces patients-là, mais on fera une compresse, on comprimera la zone où le vaccin a été injecté de façon un petit peu plus longue que pour un patient qui n'est pas anticoagulé pour évidemment contrôler la petite hémorragie locale que ça peut avoir provoquée.
Dis-moi, le vaccin de Pfizer, on le donne aux 3 semaines. La deuxième dose est après 3 semaines. Le vaccin de Moderna, la deuxième dose est après 4 semaines. Là, en ce moment, ce qui a été décidé, ce que je comprends, c'est qu'on donne les premières doses, puis on ne garde pas en réserve les deuxièmes doses. J'aimerais obtenir ton opinion à ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que si évidemment les gens ont choisi de faire ça, c'est qu'il y a probablement des avantages à ce que ce soit fait ainsi, étant donné qu'il y a une rareté là, au niveau de la ressource matérielle qui est le produit immunisant. Et pour que ce soit pertinent, il y a eu une lettre à l'éditeur publiée cette semaine dans un journal américain. Là, et dans cette lettre-là, ils avaient fait des simulations puis différents modèles. Et si la première dose procure une immunité qui est supérieure à 40 à 50 % d'immunité chez les patients qui sont vaccinés, bien, ça vaut probablement la peine de vacciner un plus grand nombre de personnes pour diminuer la mortalité et pour diminuer la morbidité plutôt que de donner une deuxième dose rapidement à ces gens-là, comme les études ou les calendriers vaccinaux là, pourraient nous le suggérer. Dans le cas du vaccin, probablement dans le cas des deux, là, mais les chiffres peuvent varier un petit peu, là, mais dans le cas du vaccin de Moderna et de celui de Pfizer, dans celui de Pfizer, on a un petit peu plus de données qui ont été publiées. Là. Entre autres, dans l'étude de Pfizer, il disait que la primo-réponse après 14 jours était au moins à 52 %. Donc, on dépasse le seuil. Et dans certaines sous-analyses qui ont été faites, entre autres, par notre santé publique, par d'autres organismes aussi nationaux ou internationaux, notre santé publique dit que la protection après la première dose pourrait frôler les 90 % après 14 jours. Le chiffre est important, là, tu sais, à 14 jours, c'est ça, à 28 jours, c'est quoi, à 42, ça va être quoi? Ça va probablement, ce ne sera pas les mêmes chiffres, les mêmes pourcentages, mais je vous dirais que le pire que j'ai vu, c'est 50 que c'est dans l'étude, et le mieux, c'est 90, puis parfois, j'ai vu aussi quelques 80. Donc, d'étirer le délai avant que la deuxième dose soit donnée est probablement une excellente stratégie pour diminuer la morbidité et la mortalité de façon plus importante que de doublement vacciné. Puis ça se comprend, là. Tu sais, si déjà nos patients sont protégés à 70 % et que l'autre est à zéro, bien, tu sais, deux patients protégés à 70 % c'est mieux qu'un protégé à 90.
Oui, mais c'est... parce que la prévalence de l'infection est tellement importante, puis en plus, les conséquences sur l'économie sont tellement majeures que ça vaut peut-être la peine d'attendre un petit peu pour notre deuxième dose.
Exactement. Mais c'est clair qu'il va y avoir des développements de ce côté-là. Là. Tu sais, à un moment donné, ils vont revenir, puis là, ils vont réaliser que l'immunité diminue après un certain temps, puis que là, c'est le moment de la donner aussi. Là.
Puis dis-moi, là, quand on va être rendu à notre deuxième dose, est-ce qu'on va pouvoir... est-ce que les vaccins sont interchangeables?
C'est clair, je suis à peu près persuadée qu'il n'y aura pas d'études qui vont valider l'interchangeabilité entre un vaccin... atténué, inactivé ou juste un vaccin à ARN. C'est clair, clair. Puis même entre les vaccins à ARN, je ne suis pas sûre qu'ils vont faire ce genre d'études-là. Donc, on n'aura pas l'information. Ça va être un casse-tête de gestion quand même assez important. Fait que les gens vont devoir garder leur petit papier là, pour savoir quel vaccin ils ont reçu, puis idéalement recevoir le même, ce qui serait préférable. Mais ça risque d'être un petit casse-tête, en effet.
Tu sais, Rachel, on veut sortir le plus vite possible de cette pandémie, de cette crise sanitaire. Ça nous prend combien de pourcents de la population qui soit vaccinée pour qu'on dise « enfin, là, on a pris le contrôle de la situation ».
Oui, ça aussi, c'est une notion qui a circulé beaucoup là, à différents endroits, ce qu'on appelle l'immunité de masse ou l'immunité collective. Là. Il y a différentes façons de l'appeler. Là. Celle qui ferait à partir d'un certain niveau, là, le R, là, le taux d'infection transmise par un porteur, serait sous zéro systématiquement ou en bas de 1, là, donc que l'infection s'éteindrait toute seule. Là. Finalement, c'est ce qu'on vise. Là. Bien, ces taux-là ne sont pas connus de façon très, très, très précise. Puis là, avec les petits variants là, qui font leur apparition, là, celui de l'Afrique du Sud, celui du UK, peut-être même que ça pourrait venir impacter un petit peu ces chiffres-là. Mais les données qu'on voit le plus souvent se situent entre 60-70 % de la population qui devrait être immunisée, soit de façon naturelle, soit de façon artificielle, donc avec un vaccin, pour nous permettre d'atteindre cette immunité-là collective.
Rachel, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, là, mais quand est-ce qu'on va avoir 60-70% de notre population québécoise vaccinée?
Ça aussi, c'est intéressant. Je vais vous parler des chiffres de la capitale nationale parce que c'est plus facile, là, j'ai eu à les faire, là, mais notre bassin de population est de 700 000 personnes. Donc, si on veut donner une ou deux doses, finalement, à tous ces gens-là, ça fait 1,4 million de doses. Admettons qu'on veut en faire 70 %, ça fait quand même 1 million de doses. Et ça veut dire que le rythme de vaccination devrait fouler les 5 000 par jour pour que, quelque part, à la fin de l'automne, on ait fini de vacciner notre population. Et si on fait le parallèle au Québec, là, on est quand même 8 millions. 8 millions fois 2, ça fait 16 millions. Si on enlève... si on prend 70 % de ça, là, ça veut dire qu'on est à peu près à 12 millions. Là. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de doses par jour. Puis on est loin de ça encore. Là.
Tu sais, je comprends qu'il y a notre capacité à vacciner, mais il y a aussi le nombre de doses qu'on reçoit. Si on est capable de vacciner 5 000 personnes par jour dans la région de Québec, il faut toujours bien avoir 5 000 doses.
Oui, tout à fait. Puis tu vois juste ça, là, 5 000 doses par jour, là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait par mois 150 000 doses, fois 30, c'est ça, là, fois 30 jours, il faut qu'on reçoive 150 000 doses. Là. J'ai pas vu ça encore là, dans les chiffres de livraison là, à court terme. On allait recevoir 150 000 doses par mois. Là.
Rachel, peux-tu me parler des clientèles prioritaires qui ont été ciblées par le ministère de la Santé et des Services sociaux là, dans cette campagne de vaccination pour réussir à obtenir 60-70 % de vaccination de masse?
En effet, le ministère, l'INSPQ, puis même au niveau national, au niveau canadien, ils ont défini des clientèles prioritaires qui devraient être vaccinées en premier. Ce qui est sorti de là, c'est quand même bien. Déjà complexe sur papier, hein, ils ont mis 12 rangs de vaccination. Fait que quand on arrive sur le terrain pour appliquer ça, ça peut être compliqué, là. Et surtout qu'il y a des enjeux, là, avec la gestion et le circuit de ces produits immunisants-là. Puis je vous rappelle que celui de Pfizer est conservé à moins 70. Là. Ça nous prend un congélateur spécial pour pouvoir atteindre ces températures-là et les maintenir aussi. Là.
Les ultra-congélateurs.
Exactement. Fait que c'est compliqué. Fait que tu vois, si on prend les personnes qui sont au rang 1, évidemment, ils sont allés de façon très, très logique. Là. C'est les personnes qui sont les plus affectées par la maladie. Donc, nos personnes âgées, nos personnes en CHSLD. Donc, là où le taux de mortalité est le plus important. Et c'est tout à fait normal de vouloir faire ça. Mais si je prends, par exemple, le vaccin Pfizer, encore là, moins 70, aucun des CHSLD a un congélateur localement sur place de cette envergure-là. Et en plus, on reçoit les doses du vaccin Pfizer par, j'arrondis un petit peu là, mais disons par bloc de 1000. Fait qu'il n'y a aucun CHSLD qui a 1000 lits non plus. Si on choisit d'amener un congélateur dans un CHSLD qui nous permet de maintenir ces doses-là à moins 70, bien, il faut aussi qu'on s'arrange pour avoir 1000 personnes qui vont venir sur place pour pouvoir être vaccinées. Fait que c'est compliqué, puis vous comprenez qu'on ne peut pas faire ça pour chacun des CHSLD. Donc, on doit attendre, puis c'est exactement ce qui a été fait, puis ce qui est fait cette semaine, d'ailleurs, au moment où on se parle, l'arrivée du vaccin Moderna, qui, lui, est un petit peu plus simple, donc qui est conservé à moins 20, qui n'a pas besoin d'être dilué, et donc celui-là peut être transporté par glacière de façon méthodique quand même, là. Puis tout ça, c'est géré par notre équipe de services pharmaceutiques. D'ailleurs, je salue Yvette et Marianne, là, qui nous gèrent tout ça là, pour la capitale nationale de façon exemplaire. Et donc, là, avec l'arrivée des doses de vaccin Moderna, bien là, on peut envoyer la quantité de doses nécessaire dans un CHSLD de façon très, très, très spécifique. Fait que là, on va pouvoir remplir enfin notre rang 1. Mais ce qui fait en sorte que vous comprenez que là, les doses qui restaient du rang 1, bien là, on est comme dans la vraie vie, là, dans le bassin d'humains. De façon théorique, c'était quand même assez simple. Si je vous parle des patients qui sont au rang 2, bien évidemment, c'était les travailleurs de la santé et ceux qui sont susceptibles d'être en contact avec des usagers, là, évidemment, porteurs de la COVID. Donc, peut-être pas ceux qui travaillent en pédiatrie de façon prioritaire, là, mais... Finalement, en rang 3, les personnes autochtones sont en perte d'autonomie ou qui visent dans des résidences privées pour aînés, donc des RPA aussi. 4, 5, 6, 7, bien là, on continue. Les communautés éloignées, at large, les patients de plus de 80 ans, les patients de 70 à 80, les patients de 60 à 69 ans, et etc. Puis on termine, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, rang 11 par les enfants. Et par les femmes enceintes, puisqu'on attend des données robustes, là, principalement sur l'innocuité des vaccins, avant de recommander là, et de vacciner ce groupe de personnes-là.
Rachel, je le sais parce que tu me l'as dit en dehors des ondes là, que tu as été vaccinée, même si tu ne rentres pas tout à fait dans la catégorie des professionnels de la santé en contact avec des patients COVID. Parle-moi-en un peu de ta vaccination, comment ça s'est passé, as-tu eu des effets secondaires, puis comment ça que tu as été une clientèle prioritaire?
Oui, c'est une bonne question, puis je vais tenter de me justifier au mieux de ma connaissance, mais au moins retenez que j'ai donné l'exemple. Et juste ça, de donner l'exemple, je pense que ça peut être utile dans la population, puis de le dire aussi. En fait, ce qui est arrivé, c'est que vous voyez toute la complexité de relier au vaccin de Pfizer. Les petits détails que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'une fois qu'il est décongelé, 45 minutes à température pièce, qu'il est dilué, le vaccin est stable 6 heures. Donc, si on a 1000 patients cédulés, puis qu'il y a des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous, puis que les doses ont été diluées, bien, on a 6 heures pour les administrer. C'est pour ça que c'est conservé à congeler. Hein. C'est quand même une molécule qui est instable et qui est très, très fragile. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que je me trouvais à passer à un endroit où on approchait du 6 heures où le vaccin allait expirer, puis qui ont tenté de rejoindre des gens, mais qui ne sont pas arrivés à en rejoindre suffisamment. Donc, ils étaient pour jeter la dose. Fait que là, ils m'ont dit, tu peux être vacciné. Fait que là, j'ai dit non, je ne fais pas partie des groupes prioritaires, mais on dit on va jeter le vaccin. Fait que là, j'ai réfléchi un petit peu, puis j'ai dit oui, je vais le prendre. On ne le jettera pas, là, aussi bien l'utiliser, tant qu'à l'avoir développé, puis à l'avoir payé aussi cette dose-là. Maintenant, comment j'ai toléré mon injection? Bien, écoute, Nathalie, super bien. Et c'est sûr que c'est une injection intramusculaire, donc je vous dirais que le soir, là, si vous vous couchez puis vous avez l'habitude de dormir sur le côté, sur le bras qui a reçu une injection intramusculaire, vous allez sentir un petit quelque chose. Un petit peu de sensibilité locale qui a duré à peine 24-48 heures, puis aucun autre symptôme. Même pas de céphalée, d'arthralgie, rien de tout ça, dans mon cas.
Est-ce que c'est un pharmacien qui t'a vacciné?
Je ne crois pas, non, parce qu'on était dans un établissement de santé. Et c'est sûr qu'en établissement de santé, bien, on est beaucoup de pharmaciens aussi de la capitale nationale, mais quand même, on a aussi beaucoup de patients. Puis on a beaucoup de soins pharmaceutiques à offrir. Fait qu'on n'a pas insisté là, pour que nos pharmaciens deviennent des vaccinateurs, là, puisqu'ils ont autre chose à faire, puis que c'est une ressource humaine, dans le fond, quand même un peu rare, là, des pharmaciens. Par contre, je peux vous dire avec beaucoup d'assurance que le circuit de ce produit immunisant-là avait été géré par mes collègues du département de pharmacie et que la dilution avait été effectuée par nos assistantes techniques.
Toi, personnellement, là, c'est quoi le rôle du pharmacien dans la vaccination là, au vu des changements législatifs?
On pense que notre rôle comme pharmacien d'établissement, c'est vraiment de gérer le circuit des médicaments et des produits immunisants. Fait qu'on a décidé de s'investir et de s'impliquer dans ce circuit-là pour assurer l'utilisation sécuritaire des produits immunisants. Et je pense que tous les départements de pharmacie devraient s'impliquer de cette façon-là dans la gestion du circuit de ces produits immunisants-là. Ceci dit, les pharmaciens d'établissement pourraient aussi vacciner, et c'est pas nécessairement notre expertise là, d'administrer, dans le fond, des médicaments. Fait que je pense qu'on est mieux de le laisser à plein d'autres groupes qui peuvent le faire. Fait que je pense qu'on est mieux de le laisser à eux. Par contre, un jour, si le vaccin devient très, très, très accessible, que c'est un vaccin aussi que la manutention peut se faire facilement, donc peut-être pas celui de Pfizer. Celui de Moderna, ça commence déjà à être mieux. Celui d'Astra, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Bien, je pense que nos pharmaciens d'officine pourraient grandement s'impliquer dans cette campagne de vaccination-là, puis nous aider à donner un petit coup de pouce là, pour atteindre les millions de doses qu'on doit administrer là, cette année, juste dans la province. Là. Puis ils l'ont clairement prouvé là, avec la campagne de l'influenza de l'automne dernier, qu'ils peuvent s'impliquer puis même faire une différence là, dans certains cas.
Rachel, on arrive en fin de balado, puis j'aimerais ça qu'on discute de la mésinformation, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur les réseaux sociaux, entre les gens, par rapport au vaccin. Puis j'aimerais savoir, ça serait quoi les conseils que tu aurais à donner à nos auditeurs là, qui seraient confrontés à des patients qui auraient eu des informations inappropriées concernant la vaccination?
Je pense que l'approche qu'on doit avoir est la même qu'avec tous les comportements qui doivent être changés là, dans les maladies chroniques. Ça pourrait être le cas, par exemple, dans le tabagisme. Et en gros, moi, j'ai tendance à faire plusieurs choses. Donc, comme professionnel, je pense qu'on doit donner l'exemple. Tu sais, un professionnel qui fume, c'est pas winner. Bien, un professionnel qui est anti-vaccin puis qui se fait pas vacciner, c'est pas winner non plus. Donc, faites-vous vacciner puis dites-le. Donc, d'agir à titre de modèle, de donner l'exemple, c'est déjà une première chose qui peut être intéressante. De ramener les faits, hein, de ramener les faits réels qui concernent les vaccins aussi, c'est important. Ils sont efficaces, ils sont sécuritaires. Vous voyez les données, là, même que l'efficacité était impressionnante. Là. Et pour le moment, leur sécurité sur des centaines de milliers de patients est excellente aussi. Donc, je pense qu'il faut revenir aux faits. Donc, par exemple, si vous entendez quelqu'un dire qu'il y a de la paralysie faciale avec les vaccins, en fait, c'était dans le groupe placebo. Hein, tu sais, fait-il de connaître ces données-là puis de recentrer l'information sur ce qu'elle est vraiment. Le dernier élément, bien, c'est d'utiliser l'entrevue motivationnelle hein, pour voir où ça achoppe.
Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec.
Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
From New York, this is Democracy Now!
My name is Pauli Murray, and my field of concentration has been human rights. My
My whole personal history has been a struggle to meet standards of excellence in a society which has been dominated by the ideas that blacks were inherently inferior to whites and women were inherently inferior to men.
My name is Pauli Murray. A new documentary from the directors of RBG explores the remarkable life of Pauli Murray, a groundbreaking legal scholar who influenced Ruth Bader Ginsburg and Thurgood Marshall, and a civil rights pioneer who was arrested 15 years before Rosa Parks for refusing to give up a seat on a segregated bus. Pauli later helped found the National Organization for Women. Pauli also became a priest and is now a saint in the Episcopal Church. Pauli Murray is also viewed as a hero to many in the trans rights movement. We'll speak to the Academy Award-nominated filmmakers Julie Cohen and Betsy West, plus Dolores Chandler, a trans writer and social worker featured in the film.
We've been taught to believe that people like us don't exist. So when I came to know and learn about Pauli Murray, I was so amazed and wanted to like hold it so tightly. And also I was angry. I was so angry that I felt in some ways that I had been robbed of a part of my history.
Pauli Murray for the hour. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the Quarantine Report. I'm Amy Goodman. The United States reported